On part en Amérique latine aujourd'hui. En français, et encore plus en portugais, on utilise des mots toupis. Les langues toupis, ce sont les langues des peuples natifs du Brésil, de la Bolivie, du Paraguay. Et pour décrire la nature, leur environnement de vie, bah on a juste pris les mots que eux utilisaient, comme le jaguar, les aras, le pétunia, le tapir, le tatou, le toucan, les piranhas. Cette famille de langues toupies, on estime qu'elle se compose d'environ 50 à 60 langues, avec parfois 1000 locuteurs, parfois 300, parfois 2. Certaines sont considérées comme éteintes. Alors, on pourrait se dire « oui, bon, bah ma foi, tant pis hein. », sauf que ce qu'on appelle la diversité linguistique, le fait que plein de langues continuent d'exister, c'est un enjeu à toutes sortes de niveaux. Alors oui, vous n'allez peut-être pas apprendre le guarani demain. Mais bon, déjà, il y a des gens qui le font, puis il y a des gens qui cherchent, qui notent, qui comparent. Ah tiens, dans telle langue, on n'a rien pour désigner le temps qui passe. Un peuple entier vit depuis des centaines d'années, des milliers d'années, sans désigner le temps qui passe. Alors que nous, en France et même en Occident, le temps qui passe, ça fait partie des fondamentaux. On apprend ça tout petit, en CP, on apprend à lire une horloge. Si ces langues disparaissent, cette variété, cette diversité de manière de vivre, de concevoir le monde, elle disparaît avec. C'est aussi l'histoire d'un peuple ou d'un pays qui est en jeu quand on oublie sa langue ou l'une de ses langues. Par exemple, en Italie, on rencontre plein de dialectes différents, et notamment le franco-provençal. Alors vous allez me dire, bah oui, en Italie du Nord, à Turin, là, c'est collé à Nice, c'est normal, c'est les voisins. Ils parlent franco-provençal. Enfin, dans les Pouilles aussi, tout en bas de l'Italie, dans le talon de la botte, et ça c'est loin de Nice. 13 heures en bagnole déjà, alors en charabeu je vous raconte même pas. Il y a deux villages dans les Pouilles dans lesquels on parle le franco-provençal depuis le XIIIe siècle, quand Charles II, roi de Provence, s'y est installé avec ses soldats. Ils ont été envoyés là-bas par le royaume de Naples pour la bataille de Bénévent, tout au sud, à la limite entre la Campanie, la région de Naples, et la Basilicate, la région qui est pile entre le talon et la pointe de la botte. Des soldats sont restés, formant donc des communautés. Il y a un monastère qui a été construit dans la montagne pour échapper à la malaria qui faisait rage dans ces régions. Et le pompon, c'est qu'au XXe siècle, il y a eu plusieurs vagues d'émigration de l'Italie, notamment vers le Canada et aux États-Unis. Résultat des courses, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent le franco-provençal du sud de l'Italie, au Canada et aux États-Unis. Ce dialecte, il incarne et raconte l'histoire de l'Italie depuis les guerres du XIIIe siècle jusqu'aux vagues d'émigration économique et politique du XXe siècle en Amérique du Nord. Et puis si on se dit « oui, bon bah celle-là de langue, on s'en fout, hein, ils sont 8 à savoir la parler, tant pis », on s'arrête où ? Celle-là, ils sont 312, on s'en fout aussi ? Celle-là, ils sont 3000, ils parlent aussi anglais ? C'est un peu comme si on disait qu'aujourd'hui, le seul français valable à conserver, à étudier, à protéger, serait celui tout beau, tout propre, sans faute de français, sans accent. Le français populaire, les mots d'argot, juste familier, celui des jeunes, typique d'un âge, d'une classe sociale. Ces Français-là, ils n'ont aucun intérêt. On efface tout d'un pan d'une société. Et en général, c'est pas une bonne idée.